Bonjour à tous, on est content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse pour notre sixième CQFR, celui du samedi, celui où on répond à toutes vos questions. Il y a Théo et Chai à mes côtés. Alors, depuis quelques semaines, je crois, on a changé un peu le fonctionnement. C'est maintenant Chai qui nous pose les questions. Chai qui a
C'est
décidé
ça.
de reprendre de force ce rôle. Théo lui a dit, écoute, mets-toi sur le côté, je vais poser. Et en plus, je vais y répondre.
C'était pour casser un peu l'étiquette de tyran qui commençait à coller à la peau de Théo. Je me suis dit, je vais m'imposer. Ça, les gens verront aussi que les autres ont de la personnalité. Voilà.
Chai, il prend direct le rôle du futur assistant de JJ Reddy quand ils disent mets-toi sur le côté. Regarde comment on fait.
Mais donc, Chai, tu as sélectionné les questions et tu vas nous poser ça tout simplement et tu vas
Absolument.
aussi y répondre.
Encore une fois, on n'a pas pu poser toutes les questions parce que là, on n'avait pas fait de CQFR bonus la semaine dernière, finale oblige, et il y avait une tonne de questions dans les mails, donc merci beaucoup et désolé pour ceux dont on ne va pas prendre les questions. Il y en a pas mal qui étaient aussi liés au final, notamment même avant le dernier match, donc celle-là, je ne les ai pas sélectionnées. Mais il y a quand même beaucoup de questions sur des sujets divers et variés. On va commencer par quelque chose qui est un peu lié au final. Il y a deux questions sur Luka Doncic qui ont été posées par Christophe et Erwan. Je vais vous lire les deux parce qu'elles sont un peu liées et comme ça après on pourra en discuter. On commence par Christophe qui nous dit bonjour l'équipe et merci encore pour le super suivi des finales NBA. Je vous ai entendu comme d'autres dire que Luka était peut-être le meilleur joueur du monde avec Nikola Jokic actuellement. Au lendemain des finales, je dois dire que je ne suis pas vraiment d'accord et je le placerai en dessous au moins sur 3 points. Je n'ai pas l'impression qu'il rende les autres meilleurs, contrairement à Jokic. Offensivement, il n'implique pas beaucoup les autres dans le jeu et garde parfois la balle 20 secondes. On dirait parfois plus un jeu à la Harden en plus fort. Défensivement, je suis désolé, mais c'est la cata. Il ne fait pas les efforts minimaux requis dans un match de haut niveau. J'aimerais bien savoir le nombre de points qu'il coûte à son équipe. Sans être un défenseur élite, Jokic fait maintenant les efforts qu'il faut dans les placements, les box-out, etc. Et enfin, dans le leadership et l'attitude, il dégage une énergie négative dès qu'il est mis en difficulté, ce qui se répercute sur le body language de toute son équipe. Pour moi, s'il veut vraiment gagner un jour en étant franchise player, il a un cap supplémentaire à franchir sur ses 3 points. Donc ça, on pourra en discuter. Et j'enchaîne très rapidement avec Erwan qui nous dit Doncic est tout en haut des classements des meilleurs joueurs mondiaux grâce à son niveau actuel, mais en anticipant qu'il a tout juste 25 ans, il est censé ne pas avoir encore atteint son potentiel maximum. En le voyant revenir saison après saison avec plus de graisse et terminer ses playoffs sur les rotules, je me demande si son prime n'est pas déjà dans le rétroviseur. Il nous demande ce qu'on en pense. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'on pense de Luka Doncic, de son niveau supposé et d'éventuellement son avenir, je pense.
Tu veux commencer, Théo? Ou
Ouais,
tu
je
veux?
vais partir. Vas-y, je vais
Vas-y.
me lancer. Je vais partir par la fin, en fait. Moi, j'ai trouvé qu'il était arrivé affûté en début de saison cette année. J'ai trouvé en meilleure condition physique et heureusement, vu la longueur de la saison de Dallas. Pour ce qui est de son niveau, je reste sur ce qu'on avait dit, hein. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, tout simplement. Alors peut-être un poil derrière Jokic. Je veux bien l'entendre complètement, notamment parce qu'il y a pas mal de points sur lesquels il peut progresser. Par contre, je pense que après, on pourra détailler peut-être quels sont ses points. Mais par contre, quand on voit son impact sur l'équipe. Cette équipe de Dallas, honnêtement, si tu retires Doncic, je veux dire, c'est même pas most valuable player. Je sais même pas quel est le terme que tu peux utiliser pour l'importance de ce joueur-là. C'est sans lui, Dallas, c'est quoi? C'est loterie. Voilà, il joue pour le first pick de la saison prochaine. Moi, je trouve qu'il rend les autres. Alors, je sais pas si je dirais peut-être pas pour l'instant qu'il rend les autres meilleurs. Par contre, il rend meilleur leur rendement. C'est-à-dire qu'il simplifie la vie de beaucoup de joueurs. Effectivement, il porte pas mal la balle. J'ai trouvé que moi, l'équilibre avec Kyrie était meilleur cette année, que dans le beau parcours de Dallas en playoff, la balle circulait plus. Je pense que ça, c'est vraiment un axe de progression pour lui comme pour l'équipe. Après, sur le tempérament et sur l'attitude, on en a parlé à plusieurs reprises. Je pense effectivement que c'est un vrai cap. C'est un vrai quelque chose sur qui doit regarder, notamment quand il se laisse tomber au sol dans les matchs de finale, quand il râle trop sur les arbitres, quand il prend sa sixième faute. Ça, c'est des vrais axes de développement et de progression pour lui. Je pense aussi qu'il est à l'âge où c'est ce genre de choses que tu commences à intégrer. Il a 25 ans, il a été très loin en playoff, finale NBA même, il a gagné au plus haut niveau hors NBA. Maintenant, je pense que voilà, je ne sais pas s'il y a un énorme. Je pense qu'il est dans son prime, effectivement. Je pense qu'il a une marge de progression, mais qui est peut-être. Qui est à la marge, mais que c'est la marge maintenant qui va faire la différence. Et cet espace-là, ces choses-là, je veux dire, c'est essentiel. C'est vraiment quelque chose qui peut lui le faire progresser son équipe. Mais non, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Je sais plus le nom de la personne qui a posé la question, mais il parlait des progrès défensifs de Jokic. Jokic, qui est, moi, je trouve maintenant un très bon défenseur, même un excellent défenseur dans le schéma de Denver, mais il n'était pas à ce niveau-là à l'âge de Doncic. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait vraiment des efforts pendant ses playoffs. En finale, je continue de penser que c'était effectivement pas suffisant, mais qu'il était aussi complètement rincé. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu faire un peu plus d'efforts, mais je pense qu'il ne pouvait plus. Mais voilà, je pense que là-dessus aussi, c'est des éléments sur lesquels il peut et je pense qu'il va progresser parce qu'il a montré par séquence qu'il était capable de le faire.
Ouais, moi, sur les 3 points qui ont été avancés par, dans la première question, je dirais que le point que je trouve vraiment légitime, c'est le leadership. Effectivement, il y a une différence de leadership entre Jokic et Doncic, ou d'attitude. Et après, je ne sais pas dans, à quel point l'attitude de Doncic, ça a une mauvaise influence sur ses coéquipiers. Ça, je ne sais pas trop. Je ne suis pas assez bien placé pour le savoir. Et j'ai pas quand je regarde, je n'ai pas l'impression non plus que les mecs. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont appris à composer avec lui au final. Alors, ça pourrait être mieux, ça c'est clair et net, mais c'est voilà, c'est plus là-dessus. Sur la défense, moi, comme Théo, j'ai trouvé qu'il avait fait des efforts. Après, oui, il est très ciblé encore. Il est déjà dans un, il a une position différente par rapport à Jokic, donc c'est ça se voit. Enfin, je sais pas comment dire, c'est. T'es un extérieur, donc tu es tout de suite exposé, les extérieurs ont la balle. Bien sûr qu'un pivot, il peut être exposé quand on demande le switch sur toi, mais je trouve que c'est un peu différent. Donc forcément, Doncic, faut que tu aies des bons stoppers autour. Bon, c'est le cas aussi pour Jokic, mais il faut que tu aies vraiment des bons stoppers autour sur les lignes extérieures. Jokic, tu vois, tu peux te dire, bah, on fait un schéma où on s'arrange pour qu'il reste le plus souvent dans la raquette, quoi, tu vois. Et c'est les autres autour qui vont devoir bosser beaucoup plus. Là, tu peux difficilement le faire avec Doncic, même s'il est grand et costaud. Tu peux pas non plus constamment aller le mettre sur un grand, quoi. Donc il y a un peu ce problème-là, mais il a fait des efforts et j'espère qu'il continuera à en faire. Et pour le côté parent de les autres meilleurs, j'ai l'impression que c'est, pour moi, c'est le même débat qu'avec LeBron James en fait. Si tu trouves que LeBron James y rend les autres joueurs meilleurs, dans ce cas-là, pourquoi tu es obligé de trouver que Doncic rend les autres meilleurs? LeBron aussi, il gardait beaucoup le ballon. Sur toutes ses premières saisons, il avait beaucoup la balle et il faisait la passe un peu la dernière passe, quoi. Et ben Doncic, c'est le même type de joueur. Sur ça, de toute façon, Doncic, pour moi, c'est un espèce d'hybride. Si on simplifie, hein, c'est évidemment un schéma simplifié, mais c'est un hybride entre Harden et LeBron avec une pointe de Milos Teodosic, si vous voulez, tu vois. Mais ça, c'est un peu comme ça que je vois Luka Doncic. Il y a un mix de ces mecs-là. Après, voilà, encore une fois, je dis c'est simplifié, c'est plus nuancé que ça. Et du coup, LeBron, bah, j'ai rarement entendu est-ce qu'il rend les autres meilleurs. J'ai souvent entendu il n'est pas assez entouré. Et bah, pour Luka, je pense quand même qu'un mec comme PG Washington, il n'aurait pas le même rendement s'il jouait pas avec Luka Doncic. Encore plus pour Derek Lively et Daniel Gafford, tu vois. Je suis pas sûr du tout que ce soit des joueurs qui aient le même impact en jouant avec un autre mec que Luka Doncic. Donc bon, je pense quand même qu'il rend un peu les autres meilleurs et je pense qu'il est entré dans son prime. Je ne dirais pas que son prime est derrière lui, je ne pense pas. Je pense qu'il est entré dans son prime et qu'il y a effectivement encore un cap. Après, dans quelle mesure? Je dirais que par exemple, même son, tu vois, il peut y avoir des progrès encore un peu au tir. J'y crois encore un peu. Je sais que ça fait tard, 25 ans, pour progresser vraiment au tir, mais j'ai quand même l'espoir qu'il y ait un moment où Luka Doncic, ça soit régulièrement un shooter à 3 points à 35-36% et pas à 33, quoi.
Après, c'est un bon shooter en fait. C'est-à-dire que son pourcentage, je pense, est aussi tributaire du nombre de tirs qu'il prend, de la difficulté des tirs. Mais si tu regardes par exemple sur la gestuelle, il n'y a pas un problème, tu vois, où tu te dis, il faut vraiment qu'il corrige beaucoup de choses, quoi, sur le tir.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah alors, mais si tu veux arriver au stade où, comme certains, comme Lillard, tu vois, ont commencé à rentrer des tirs tellement difficiles qu'à un moment tu te dis, ok, bah, c'est leur pourcentage, même en tant que. Enfin, je pense qu'encore, Luka, il y a une petite marge là-dessus. Il y a de la marge sur des détails. En fait, il y a tout un paquet d'aspects du jeu sur lesquels il peut progresser, que ça aille de la compréhension de bah, faut pousser, le rythme, tout un paquet de petites choses sur lesquelles il peut progresser qui feront qu'il y a une meilleure version de Luka, je pense, qui existe encore dans le futur.
Moi, j'ajouterais qu'au niveau du leadership dont on a parlé là, c'est la saison où je l'ai vu le plus encenser des coéquipiers dans les médias ou afficher des connexions vraies avec ses partenaires. Je dis pas qu'avant il était c'était un loup solitaire qui était un génie dans son coin, mais là j'ai quand même, que ce soit de PJ Washington, Gafford, Kyrie évidemment, j'ai l'impression qu'il a cette fois-ci, il s'est senti bien entouré, ou en tout cas, il avait confiance dans ces mecs-là. Et c'est aussi, ça fait aussi partie du leadership, réussir à transmettre la confiance que tu peux avoir dans les autres. Et là-dessus, alors oui, il y a la marge de progression aussi pour, il l'a dit lui-même, il a dit, je dois pas faire ce que j'ai fait là sur les finales, perdre le contrôle de mes émotions et tout ça. Moi, pour moi, c'est vraiment là la marge de progression. Et une fois que ça, il l'aura, il a montré que ponctuellement, il pouvait défendre ne serait-ce qu'à un niveau correct ou décent. Et le reste va suivre. Moi, je pense qu'il fait partie, oui, il fait partie des deux, trois meilleurs joueurs du monde et que ça va pas changer. Il y a beaucoup, beaucoup de chez lui.
Juste sur le leadership, si je peux rajouter un truc, c'est il y a aussi différentes, il y a plein de manières en fait d'être leader. Et moi, j'adore le leadership de Nikola Jokic. Voilà, c'est moi en tant que personne, je pense que c'est ce qui m'aurait le mieux convenu quelque part. Mais est-ce qu'on peut dire, est-ce que Kobe était un bon leader? Est-ce que Jordan était un
Ouais.
bon leader? Est-ce qu'Oscar Robertson était un bon leader? Bah, c'est une vraie question en fait. Est-ce que Chris Paul est un bon leader? Cette question du leadership, elle est assez subjective au bout du compte. Il y a différentes manières d'être un leader. Effectivement, il y a parfois des modes de fonctionnement qui peuvent, comment dire, qui peuvent aller avec plus de gens. Mais tu vois, au bout du compte, le leadership, c'est une question qui est un peu complexe, je trouve, qui est diffuse. Donc, je comprends. Par contre, moi, effectivement, je trouve ça relou. Ça m'aurait saoulé de jouer avec un mec qui baisse les yeux ou qui te fusille du regard quand tu regardes un truc, quand tu rates quelque chose. Finalement, avec ses partenaires, même limite sur le terrain, c'est vraiment avec les arbitres, en fait, que je trouve que c'est vraiment problématique. Parce qu'au bout du compte, effectivement, je te rejoins complètement, Antoine. Jamais Derek Lively n'aurait pu réaliser une telle saison rookie s'il avait été avec un autre joueur que Luka Doncic. C'est impossible. Je vois pas même. Tu peux le mettre dans n'importe laquelle des 29 autres équipes que les Mavs. Je vois pas un scénario meilleur pour lui que d'avoir été avec Luka. Donc, ouais, il y a beaucoup de subjectivité. Mais c'est intéressant de voir aussi comment Luka a longtemps été un petit peu l'espèce de joueur qui fascinait, qui faisait kiffer tous les fans, notamment européens. Et puis maintenant, c'est devenu un personnage et un joueur bien plus clivant qu'à ses débuts.
Ouais. Je vous propose d'enchaîner avec un petit jeu proposé par Tom. C'est très rapide, un start bench cut en forme de 5 majeurs.
Oh, ça va être dur, ça.
Il n'y a pas besoin de beaucoup justifier, hein. Ça peut être juste les affinités que vous avez pour chacun. À chaque fois, il y a donc 3 joueurs par poste que Tom nous propose. Il faut start, bench ou cut. Alors, c'est des choix, c'est ses propres choix, hein, donc ce n'est pas forcément ceux qu'on aurait fait nous. Je commence par le poste de meneur où il vous propose un start bench cut entre Rajon Rondo, Jason Williams et Stephen Marbury. Qui veut se lancer?
Lequel? Le Jason Williams des Bulls?
Ce que j'allais dire.
Ah non, Jason Williams, White
Jason
Chocolate.
White Chocolate, ouais.
Celui des Kings ou celui des. C'est des Grizzlies parce que.
Et Marbury,
Ouais.
celui de Chine ou celui des Knicks?
Vas-y, moi je le fais, je
Vas-y.
me lance, je le fais au niveau du kiff. C'est pas sur
Ouais,
les
très bien,
résultats,
mais
je m'en
ce qu'il
fous des
faut.
résultats. Je mets Jason Williams en premier, Rajon Rondo en deuxième et je cut Stephen Marbury.
Bah, moi, je vais le faire aussi au niveau du kiff. J'ai quasiment comme toi, Jason Williams, mais King seulement en premier. Deuxième, Stephen Marbury. Je suis désolé, j'ai aimé le Stephen Marbury des Nets. J'ai kiffé Stephen Marbury des New Jersey Nets. J'ai pas honte de le dire. Et en cut, je cut Rajon Rondo. Jamais aimé Rajon Rondo. C'est simple que
Très
ça.
bien, pas besoin de plus de
Et toi,
justification.
Shai?
Moi, Jason Williams en 1, Rajon Rondo en 2. Enfin, je start with Jason Williams, je bench Rajon Rondo, pardon, et je cut Stephen Marbury. J'ai été trop impacté par le Marbury sous vaseline en Chine, je peux pas
Le
le.
Stephen Marbury des Knicks, je le cut tous les jours. Hein. C'est vraiment
C'est
celui des
ça.
Nets. Celui des New Jersey Nets, moi, je le kiffais
Ouais, il
bien.
était fort. Ouais, après, il était fort,
Même
hein,
au
y a pas de
Suns,
souci.
même au Suns,
Moi,
j'aimais bien aussi,
c'est au
d'ailleurs.
Suns que
Ouais.
j'ai plutôt
Suns,
bien
j'aimais
aimé
bien
avec
aussi.
Stoudemire. Ouais.
Avec Stoudemire, ouais.
Poste arrière, poste 2, entre Clyde Drexler, Reggie Miller et Ray Allen. Il
Toujours au
n'est pas
niveau du
facile
kiff.
celui-là.
Allez, moi je prends.
Faites au niveau
Moi
du kiff.
je starte le Ray Allen des Bucks
De
et des
Milwaukee, ouais.
Seattle. Je fais sortir. Attends, tu m'as dit Reggie Miller et qui?
Et
Les deux
Clyde
autres?
Drexler. Clyde Drexler,
Allez,
Reggie
Clyde
Miller, Ray
Drexler en
Allen.
2, Reggie Miller en 3. Donc je
Ouais, je
cut
suis là.
Reggie Miller et je fais sortir Clyde Drexler du banc pour mettre 25 points en 12 minutes.
Je vais avoir la même chose. Par contre, je précise, c'est aussi le Ray Allen, soit Bucks, soit Sonics, comme toi, pas après, même pas celui des Celtics. Et Clyde Drexler, évidemment que celui des Blazers.
D'accord. Je réfléchis. Je pense que je starte. Ah, Reggie, parce qu'après vous avez classé Reggie Miller le consultant, peut-être que vous aimez pas tous les
Après, pour que tu réfléchisses,
Non, jamais défendre des.
je rajoute que Clyde Drexler est un joueur honteusement et injustement sous-estimé et sous-coté. Maintenant, on a oublié à quel point il était extraordinaire. Donc, si ça avait été sur le niveau, je pense qu'il était au-dessus des autres.
Après, sur l'acting, le Ray Allen de He Got Game, je le start.
Non, Jesus Shuttlesworth dans le sens.
Ouais, Shuttlesworth. Après, en termes de niveau, je pense que je start Drexler, je bench Reggie Miller et je cut Ray Allen.
Le Ray Allen qui a des cheveux et un dégradé
la fade.
Avec le maillot des Bucks, ça c'est du grand kiff.
Qui mettait des dunks.
Exactement.
Ah,
ouais, gros driver, gros star. Avec sa... Et puis franchement, le trio Sam Cassell, Glenn Robinson.
Ouais. Poste 3. Bref. Poste 3, start bench cut, Tony Kukoc, Paul George, Sean Marion.
Allez, moi je start mon gars Tony Kukoc.
Claire.
Juste parce que mon coach, quand j'étais en cadet, nous saoulait parce que quand on montait dans sa voiture pour aller au match, il nous disait « Vous devriez être fiers, vous montez dans une voiture dans laquelle Tony Kukoc s'est assis » parce qu'une fois, il l'avait ramené de l'entraînement en Serbie, bref, en Croatie, pardon. Donc, Tony Kukoc dans le 5, en sortie de banc, je mets… Attends, tu m'as dit qui déjà?
Paul George et Sean Marion.
Ouais, Paul George qui sort du banc et Sean Marion que j'envoie aux Shanghai Sharks.
C'est Kukoc des Bulls.
Oui,
même
c'est
de Milwaukee, même si de Milwaukee.
Tu prends la version que tu veux.
Split, prends
Non, parce
split.
Que la version fine de Kukoc, c'est le genre de joueur que j'aurais grave kiffé, tu vois. Le mec de Split, mais j'ai jamais vu de. Enfin, tu vois, j'ai regardé que des vidéos, quoi. Mais moi, vous allez me renier. Moi, je vais cut Tony Kukoc, du coup, parce que ça me parle pas assez, le Tony Kukoc des Bulls, qui est trop gros, à mon sens. C'est de la grossophobie. Appelez ça comme vous voulez. J'ai rien à faire en tant que mec tout maigre. Je préfère le Kukoc fin. Et après, sur le start, je vais quand même start Paul George. Je vais start Paul George et je vais mettre sur le bench Sean Marion.
Moi, je start Kukoc tous les jours en hommage à NBA Live 95. C'était un de mes joueurs. Je pense que je bench Sean Marion parce que son shoot est celui qui ressemble le plus au mien, je pense. Je vais prendre c'était un joueur fort défenseur. J'aimais bien ce mec quand même. Et peut-être Paul George, et je cut Paul George, même si c'est un des joueurs les plus esthétiquement beaux à avoir joué, je pense, et que c'est un mec cool d'ailleurs. Mais Kukoc, je start Kukoc, je bench Sean Marion et je cut Paul George. Poste 4 maintenant, entre Paolo Banchero, Zion Williamson et Jaren Jackson Jr. On est sur une autre génération là.
Moi, alors je te dis déjà, c'est déjà le kiff cut. Hein.
Dans l'ordre que tu as donné. Moi, je prends dans l'ordre que tu m'as donné.
C'est-à-dire, tu start Banchero, tu bench Zion et tu cut Triple
ouais,
J. Okay.
Absolument. Zion, parce que je sais que je l'aurai qu'un match sur 7, donc je préfère l'avoir sur le banc.
Moi, je cut Jaren Jackson Jr., même s'il n'y avait que 2, même s'il y avait 5.
Vas-y, on part à 4, on s'en fout.
Mais qui je start entre les deux, c'est dur. Putain, deux mecs de Duke. Moi, j'aimais beaucoup Zion, moi, quand même. Mais j'aime beaucoup Banchero. Allez, Banchero, il porte le 5. Et moi aussi, je porte le 5. Voilà, pour juste cette raison-là, je start Banchero et je bench Zion. Je cut Jaren Jackson Jr. Je le répète encore.
Double cut pour Jaren Jackson Jr. Non, moi, je start Zion. En tout cas, la version un peu fantasmée de Zion et ce qu'il a montré par instant. Je bench Paolo Banchero et je cut aussi Jaren Jackson Jr.
Sache que les fans du Orlando Magic s'en souviendront, Shai.
Je sais, j'espère que Fred Young n'écoute pas et il ne voudra plus faire de podcast avec nous s'il n'entend pas.
Mais par contre, c'est vrai que Zion, si on était juste sur le potentiel, Zion, c'est quand même le plus gros potentiel des trois.
Absolument.
Des deux.
C'est ça. Antoine, c'est le coach qui dit bon, on va devoir faire forfait pour le match, les gars, on n'est pas assez. Il y a Jaren Jackson,
tu
je suis là, moi. Ouais, désolé, gars, on est obligé de faire forfait.
On finit par le poste 5. On nous propose Rudy Gobert, Dikembe Mutombo et Rashid Wallace. Alors en stretch 5, alors
moi je prends Rashid Wallace. Rashid Wallace et je prends Gobert quand même. Je prends Gobert. J'ai jamais été fan du jeu de Dikembe Mutombo. Hein. Je sais que le bon Mutombo m'a jamais fait vibrer. Donc ouais, Rashid Wallace, Rudy Gobert sur le banc et Et ciao, Dikembe.
Ouais, moi pareil. Rachid, titulaire, everyday. Et je vais aussi choisir Gobert plutôt que Mutombo. Pas été un grand fan non plus de Mutombo, même s'il a l'air très sympa.
Alors que moi, je vais prendre le contre-pied total, parce que c'est un de mes joueurs préférés, Dikembe Mutombo. Donc, Dikembe, je le start, je bench Rudy et je cut Rachid Wallace, dont je reconnais le talent et la personnalité marquante, mais je n'ai jamais trop aimé le joueur et le personnage, donc je le mets en... Je le cut, voilà. Je cut Shid.
S'il t'envoie un vocal, l'écoute pas avec tes enfants à côté, hein, parce que je pense que c'est clair. Ça sera pas propre.
C'est clair. Voilà, pour ce petit exercice proposé par Tom, on va repasser à des questions plus traditionnelles. Alors, question de Samus.
Très cool, hein, ce start de Venkush.
Ouais, ouais, c'est sympa à refaire. Ouais. Question de Samus. Salut la team, merci pour toutes vos émissions. Je n'en manque pas une sur le trajet du boulot. J'ai également deux MOOC New York et Boston. Je dis ça juste en imaginant Antoine Pimel lever les yeux au ciel et dire quel bolos avec sa conférence Est. J'aurais deux questions donc qui n'ont rien à voir, mais on va les poser et y répondre une par une. Aura-t-on le plaisir et l'avantage d'avoir une saison 2 de Moop Deep à San Antonio? Est-il toujours à Basket Session? On va répondre tout de suite oui, c'est juste que Ben est en vacances. A priori, il avait pour intention de retourner à San Antonio, donc on peut imaginer que ça va être comme ça, mais on le laissera lui-même nous le dire prochainement. Deuxième question, j'étais en vacances en Indonésie et je suis rentré dans un magasin et là je vois qu'un maillot de Tony Parker sert de paillasson quand des maillots de Victor Wembanyama trônent en bonne place. En Asie du Sud-Est, ce ne sont pas franchement des NBA stores. Du coup, j'aurais voulu avoir votre opinion. Alors là, du coup, il passe un peu du coq à l'âne sur le déficit de meneurs de haut niveau en équipe de France. Est-ce que c'est un problème de formation française qui privilégie les grands au niveau du profil? Ou un problème de profil du meneur moderne NBA qui doit lâcher très vite la balle à la star et n'a ensuite que peu d'occasion de s'illustrer balle en main? Merci pour vos réponses, ne changez rien.
Bonne question, pas facile là sur le poste de meneur. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le gros du recrutement sur les pôles et sur l'INSEP, c'est quand même avant tout sur les qualités athlétiques, la taille, ce genre de facteurs. Alors, j'imagine que pour le poste de meneur spécifiquement, il regarde d'autres choses. Mais c'est intéressant quand même quand on voit, par exemple, dans les derniers meneurs qui ont été en équipe de France, il n'y en a pas beaucoup qui sortent de l'INSEP, hein, à part Antoine Diot. Hein. Même... je vais pas revenir de, enfin voilà, Nando De Colo pas prêt à l'INSEP, même si c'est pas un meneur pur. Fabien Causeur qui est au Real, voilà, pas passé par
Thomas Hurtel aussi. Filière. Ouais.
Thomas Hurtel non plus, qui était au centre de formation de Pau. Ouais. Donc c'est une vraie bonne question qui se pose d'autant plus que maintenant on a des, voilà, on a un secteur intérieur qui est ultra dominateur ou dominant. Intéressant comme de voir le, comment dire, la trajectoire de Nolan Traoré là, qui a fait très forte impression vraiment au dernier comment dire tournoi jeune de l'Euroleague Next Generation. Et puis il y a des sur les postes 2, 3, voilà, il y a quand même des joueurs qui sont vraiment intéressants qui sortent. On attend de voir la draft avec où va atterrir Zachary Risaché par exemple. Mais c'est une vraie question sur le poste de meneur de jeu. Nous on se l'a posé aussi un petit peu en interne, surtout quand on regarde par exemple l'Espagne et le nombre de quand même de créateurs et de joueurs qui jouent à ce poste-là qui sortent régulièrement quoi. Chaque génération, t'as l'impression qu'il y a pardon sur ces postes-là ils sont très forts. Donc oui, je pense quand même malgré tout que dans la grille d'évaluation des jeunes, il y a un filtre français qui est avant tout tourné ou qui ou vraiment met l'accent sur les qualités athlétiques, des profils qui font aussi qu'on a beaucoup de joueurs draftés. Mais je me demande aussi dans quelle mesure ça peut pas nous pousser à passer à côté de joueurs peut-être moins explosifs, mais avec qui sentent le jeu, avec du talent sur ces postes-là.
Ouais, moi, comme toi, je pense qu'effectivement, je vais répéter ce que tu as dit, mais il y a un accent qui est mis sur certains profils, notamment des profils susceptibles d'être draftés. Ce qui est intéressant avec Nolan Traoré, c'est qu'il rentre à la fois dans cette case. Je veux dire, c'est un mec qui est athlétique, c'est un mec qui a une polyvalence défensive potentielle, et c'est aussi un mec qui peut jouer meneur de jeu. Après, pour ce qui est des meneurs français pour la NBA, c'est pas tant le profil, parce que le meneur NBA, il lâche pas forcément la balle à la star si c'est lui la star. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Sauf qu'on n'a pas de meneur assez fort pour être star en NBA. Killian Hayes est un joueur qui a un profil NBA. Je le pense encore, honnêtement. Il a des qualités athlétiques, il a une qualité de drive, il a de la taille, il a de la défense, il a du playmaking. Le seul problème, c'est qu'au final, il n'a pas été assez fort pour vraiment s'imposer. Et du coup, on se doute bien que ça ne sera pas une star. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Une équipe comme Detroit, elle draft deux mecs sur son poste parce qu'on veut un mec fort balle en main. Et derrière, bah, c'est plus dur pour un mec comme lui de s'imposer avec du Cade Cunningham, du Jaden Ivey, etc. Mais c'est pas tant ouais, le profil recherché par les meneurs NBA, c'est juste qu'on n'a pas un meneur assez fort dans ce profil. Et peut-être que Nolan Traoré, il sera ce mec-là, justement. On verra comment il évolue. Il a encore du temps, hein. C'est pas pour mettre une pression sur sa tête. Mais après, oui, par contre, je rejoins tout ce qu'a dit Théo. C'est aussi un peu dans notre formation, dans notre ADN de jeu.
Ça
On
fait
n'a pas.
penser un peu au foot, tu sais, toute la période où il était reproché à Clairefontaine notamment et à d'autres centres de formation de privilégier que des profils physiques et de ne pas laisser passer à travers les mailles du filet des joueurs plus petits. Après, c'est parti en question un peu nauséabonde sur la couleur de peau et tout ça, mais c'était débile puisque tu peux être un joueur d'origine africaine très grand, très technique ou très petit, très physique, ça n'a rien à voir. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont passés entre les mailles du filet, les Griezmann notamment, ou même N'Golo Kanté, si tu prends du coup pour prendre deux types de joueurs différents. Et ça me fait penser un peu à ça. Je pense que c'est vraiment des consignes de base. On leur dit rechercher des joueurs un peu de ce profil-là, privilégier des joueurs de ce profil-là. Et ça se retranscrit. Alors j'ai moins de billes sur la formation à la française que j'ai pas côtoyé moi-même, mais je pense ça vient forcément de tout en haut. Je pense pas que ce soit circonstanciel comme ça. Ah bah tiens, on est sur une génération où il n'y a pas trop de mecs comme ça, je pense.
Ce que je trouve dommage moi, dans le basket français, c'est que même à des niveaux bien plus inférieurs, même à des niveaux amateurs de base, et même sur des jeunes, tu sens que c'est la même grille de quand même grille de lecture pour pas mal de clubs, quoi. Et c'est assez dingue de te dire qu'en U13 ou U15, dans un club amateur, qui n'a même pas vocation forcément à mener vers le très très haut niveau, il y a déjà cette grille de lecture qui fait qu'on va donner plus facilement une chance à un mec qu'on voit débarquer parce qu'il est athlétique et grand et qu'on se dit ah, peut-être on peut en faire quelque chose, qu'à un joueur que où tu sens, tu vois qu'il est
Il a du
passionné,
ballon,
qu'il a du ballon, qu'il a le sens du jeu et peut-être qu'il n'est pas si grand que ça. Tu vois, c'est ça que je trouve, moi, que je trouve assez dommageable quand même à des niveaux très amateurs.
ouais. Ok, on passe à la suivante. Une question qui nous vient de Suisse, une question de Gilles qui nous dit merci pour votre podcast. Je suis un fan de basket de la Dream Team 92. J'ai lâché le basket en arrêtant de jouer en 2000 et j'ai repris petit à petit grâce à vous. Vous donnez envie d'écouter tous les jours et même en plein mois d'août. Ça, je pense que c'est pour nous inciter à continuer pendant le mois d'août.
C'est ça.
J'ai reçu votre MOOC Défense, superbe ouvrage, une perle, illustration de fou, dessin magnifique. Merci pour ce moment de plaisir. J'avoue, à mes débuts sur le podcast, j'étais perdu au niveau du langage basket. Peut-être faut-il songer à faire un glossaire sur le site avec le ton humoristique que vous savez tenir. Ma question, si vous faites une équipe de 3 contre 3 avec des joueurs de NBA cette année, qui prendriez-vous? Donc, il faudrait des
À
joueurs qui
fond en
soient
roster
adaptés
du
aux
coup, hein.
caractéristiques. Oh bah, tu prends 3 joueurs, on
Kyrie
prend
Irving,
quatre.
Kevin Durant.
De joueurs américains, c'est ça? Joueurs
Des joueurs de joueurs NBA, donc
NBA
j'imagine
ou.
qu'on peut. Ces joueurs NBA, c'est des joueurs qui ont évolué en NBA cette année. Lesquels seraient selon vous les plus adaptés, les plus forts pour un 3-3? Parce qu'on sait que c'est une discipline qui requiert d'autres qualités quand même que le 5-5, même si.
Sinon, je prends les 3 meilleurs joueurs du monde, hein, t'inquiète
C'est
pas,
ce
tu
que
prends
j'allais dire.
Yanis Jokic et Luka Doncic, hein, ça va marcher sur n'importe quel basket, hein.
Ouais.
Mais allez, si on veut rester
J'ai
un peu sur.
réfléchi, ouais. Ouais, je
Moi, je
réfléchis
vais
pour.
tenter un truc.
Vas-y.
Oh, pardon. Je tente alors, du coup, je me dis, tu peux avoir Kyrie Irving sur n'importe quel basket, il se rapproche un peu du street, c'est marrant, mais je pense qu'il se ferait ouvrir défensivement, c'est le gros problème. Mais mon pari, c'est qu'il va mettre tous les points. Je pense que Yanis est trop fort dans n'importe quel basket, en fait. Un basket où il y a plus d'espace, là, comme ça, tu lui donnes encore plus d'espace pour attaquer le terrain. Il va tellement dominer athlétiquement. Je mettrais Yanis.
Moi, je pense que là, vous parliez de Doncic. Je pense, par exemple, Doncic, ça peut pas le faire parce que il faut tellement être tout le temps en mouvement, en train de courir et des coupes super. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut quand même un minimum. Je dis pas qu'il a pas de cardio, Lucas. Attention, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même des joueurs très très cardio, quoi.
Jason Tatum serait fort, Anthony Edwards, c'est les scoreurs, quoi.
Je pense que ouais. Moi, il manque un troisième. Moi, je serais parti sur Stephen Curry et
Ah,
Nikola Jokic parce que je pense que c'est Et je cherche un 2, un 3 en fait, un 3 défenseur, mais avec beaucoup de tirs à 3 points. Parce qu'il y a quand même beaucoup de tirs à 3 points dans le
bah,
3-3.
Victor, hein. Victor en 3-3, je pense que c'est une tuerie, hein.
Je pense qu'il est pas. Ouais. Non,
Ah, je
t'as raison.
peux voir à quel point il est
Ça cherche
mobile.
un 3, moi. Ouais.
Tu mets Paul
Parce
George, Kevin Durant, mais Théo, t'embête
Ouais,
pas,
Kevin
Kevin
Durant, ouais.
Durant.
C'est ton intérieur, ouais. Je
Mais
pense que tu peux
il
faire
va
ça.
scorer de ouf,
Il bouge
Kevin
pas
Durant.
assez. Franchement, je pense que. Parce que t'es le 3-3, ça va à 200 à l'heure. T'as 14 secondes pour attaquer. Faut ressortir vite, repartir. Je pense. Bien sûr qu'il serait très fort, hein, Kevin Durant, mais je me demande s'il est pas un peu, s'il serait pas trop vieux là pour faire tous ces allers-retours incessants, rentrer, ressortir, c'est quand même hyper challengeant, quoi.
Paul
Je pense
George,
qu'il y a une meilleure.
ou trop vieux?
Non, Paul George, c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a un... il cherche un plus jeune là. J'ai hésité à. Non, Banchero, il est pas assez adroit, tu vois. Un mec vraiment qui va mettre du jus parce que c'est vraiment gros rythme quand même. Mais c'est vrai que Stephen Curry, Victor et un troisième. Faudrait trouver un
Curry, ça
troisième. Je pense qu'il
court.
nous manque un troisième. Il nous manque
Curry,
un
ça
troisième, ouais.
court. Curry, ça court. Mais moi, je tenterais bien Victor quand même, parce que je pense qu'il peut le faire. Et ouais, KD, c'est bien aussi. Non, mais il y a plutôt des joueurs que je vois pas. Tu vois, des joueurs qui aiment trop pioncer en défense. Tu vois, ça va trop vite. Faut se replacer tout de suite. Les remises en jeu, ça va trop vite. Donc, je pense qu'il faut quand même des mecs qui. Curry, c'est bien, parce que c'est quand même un mec qui est tout le temps en mouvement. Je
Moi,
dirais
je
ça.
prends Kyrie, Edwards, Giannis, et en plus, on va mal parler de votre team. C'est ça qui va me plaire.
C'est bien, ça me plaît ça. Ok, voilà, on a fait un panel un peu plus tôt que on a cité un peu les joueurs auxquels on pensait comme ça. Du coup, ça me permet d'embrayer. Moi, j'évoquais Victor Wembanyama rapidement. Il y a une question de Clément qui le concerne. Bonjour, déjà pour commencer, j'adore ce que vous faites. Continuez comme ça. En tant que Basket-X gros fan de Wembanyama, je dis Wembanyama et pas le surnom que Clément a utilisé pour lui parce que je ne le valide pas. Wemby. Que pensez-vous, enfin, comment jugez-vous l'arrivée de Wembanyama en NBA? Pouvait-il faire mieux? Et quels sont les objectifs pour les Spurs en 2025? Le play-in, de nouveaux tra enfin, des transferts importants, qu'en pensez-vous?
Antoine, je te laisse commencer.
Moi, ça a coupé. Il faut que tu me redises la
Je te
question.
la redis sans problème. En gros, c'est une question sur Victor Wembanyama. Il nous demande qu'est-ce qu'on pense de son arrivée en NBA? Est-ce qu'il pouvait faire mieux que ça? Et quels sont les objectifs pour lui et les Spurs en 2025? Est-ce que ça vise le play-in? Est-ce qu'il doit y avoir des transferts chez les San Antonio Spurs?
Est-ce qu'ils pouvaient faire mieux que ça individuellement? Non. Est-ce que les Spurs auraient pu faire mieux collectivement? J'imagine que oui, mais je pense que volontairement, il y a eu des moments où ils ont testé des choses. S'ils commencent la saison avec Tyus Jones dans le 5, j'imagine qu'ils gagnent un peu plus de matchs s'ils avaient commencé la saison. Après, voilà, je reviens sur Wembanyama individuellement. Je pense que c'était le. Tu sais, il y avait plusieurs scénarios. Ben, on est dans la catégorie du meilleur scénario, quoi. Il est tout de suite dominant des deux côtés du terrain. Je n'aurais pas forcément fait de gros transferts. On a déjà parlé beaucoup de tout ça sur les Spurs. Je n'aurais pas forcément fait de gros, gros transferts. Après, voilà, s'ils ont l'occasion d'ajouter un ou des vétérans à ce groupe, tu vois, un peu comme des mecs qui ne vont pas leur coûter trop cher sur trop d'années. Des mecs où il y a vraiment une attitude, c'est même pas juste le jeu, mais aussi tu te dis, ok, dans le vestiaire, ça va être intéressant. J'ai pas un exemple de type en tête, mais tu sais, par exemple, un Sean Battier, tu sais que partout où il passait, il allait avoir un impact sur la manière dont son équipe jouait et dont ses coéquipiers se comportaient. Donc voilà, si tu as cet équivalent-là en NBA aujourd'hui, des mecs comme ça qui à la fois vont te faire progresser sur le terrain, mais aussi vont faire grandir tes jeunes en tant qu'homme. En fait, là je parle vraiment en tant qu'homme, tu vois, genre un mec qui serait un mentor. Bah, bien sûr, faut pas se priver, mais j'aurais gardé les deux picks, hein. Même, sauf s'il y a vraiment une belle offre, mais j'aurais vraiment gardé les deux picks, même dans cette draft. Ou alors, si vraiment il y a un truc, c'est que j'aurais essayé d'aller chercher Risaché. S'ils peuvent y arriver, je pense que Risaché peut être un mec vraiment intéressant. C'est même pas parce qu'il est français pour l'ajouter avec Wembanyama, c'est que j'aime beaucoup le profil de Risaché. Je pense qu'il y a un vrai truc. Je pense que ce sera pas une star, Risaché. Enfin, c'est pas un mec au cours duquel tu pourras construire ta franchise. Mais il a. Ça me permet, pardon, je dérive un peu sur Risaché. Je ne sais pas s'il y a une question sur Risaché, mais j'ai envie de parler de Risaché.
Tu peux y
J'ai
aller.
l'impression que ce qui est le plus intéressant, c'est Risaché. Finalement, c'est même pas son plafond, c'est son plancher, en fait. Je me dis que Risaché, quoi qu'il arrive, dans le pire des scénarios, ça sera un titulaire intéressant dans une équipe qui joue le titre un jour parce qu'il sera un bon shooter à 3 points, un mec qui a une bonne polyvalence défensive et un mec qui va pouvoir marquer des points sans le ballon. Et tout le plafond, c'est finalement qu'est-ce qu'il va réussir à faire quand il aura la balle en main. Ça, c'est ce qui va déterminer est-ce que Risaché un jour sera un All-Star. Mais je pense que son plancher, si tu as déjà une superstar, tu te dis, mais ça va être quoi qu'il arrive, quels
Genre
que soient les joueurs, ça sera un.
Michael Porter Jr. avec de la défense, quoi.
Les Michael Porter, ouais, au niveau de la taille, j'aime bien la comparaison, mais tu sais, dans le
Moins gros,
style
quand
de
même.
joueur, je veux dire les Derrick White, évidemment, il n'est pas au même poste, mais tous ces mecs, en fait, où tu te dis, ah, en fait, dans n'importe quelle équipe, lui, ça va servir, et ça va servir si t'as déjà une star. Et vu qu'ils ont déjà Wembanyama, peut-être un truc comme ça, S'il y a un trade, voilà, pour trade-up et monter jusqu'à prendre Risacher, mais bon, ça m'étonnerait. J'ai l'impression quand même que les deux premiers choix, il n'y aura pas de trade. Mais ouais, pas de gros trade. Et du coup, les attentes pour les Spurs, je sais pas, gagner au moins 10, 15 matchs, 10 matchs de plus, en fait. Tu passes déjà ne serait-ce que des 33, 35 victoires. 35, imaginons 35, donc 13 de plus, 35 victoires. T'es pas dans le play-in parce que l'Ouest, c'est trop difficile. Mais t'es en position de te dire, OK, l'année 3, c'est l'année où cette fois-ci, maintenant, vraiment, on passe un cap. On est passé de 22 à 35. Maintenant, on vise 35 à 45, 47, va savoir. Wembanyama dans son année. L'année 2, elle est un peu bâtarde, entre guillemets. Elle n'est pas simple à négocier pour les sophomores. Et t'es pas encore tout à fait prêt à vraiment passer un cap. On le voit même avec les jeunes joueurs récemment qui ont été très très forts. L'année 2, c'est pas forcément l'année où tout de suite tu es en train d'exploser. Par contre, l'année 3, souvent tous les joueurs disent, il te faut 2 ans complets pour vraiment comprendre le jeu, que intégrer la vitesse, etc., les systèmes, tout ça. T'arrives dans l'année 3, c'est le moment où t'exploses. C'est souvent le moment où les mecs qui sont candidats soit au MVP, soit ils prennent même des MIP. Je suis sûr que Ja Morant, il prend son MIP sur son année 3 ou quelque chose comme ça. Et là, je pense qu'à ce moment-là, ça peut vraiment donner pour les Spurs et être vraiment ambitieux. Je pense qu'il faut attendre encore un an du coup.
Ouais, bah, je suis d'accord avec énormément de choses que tu viens de dire, Antoine, notamment sur Risacher. Je pense que pour le coup, c'est une draft où ça sera possible d'aller chercher le premier ou le deuxième pick par un trade si une équipe vraiment est motivée. Parce que voilà, la draft, il n'y a quand même pas d'assurance. Je trouve que elle est très ouverte. Pour ce qui est de Victor Wembanyama, de sa deuxième saison, ce qui est intéressant, c'est quand je vois à quel point il a progressé sur la deuxième partie de saison par rapport à la première partie de saison, c'est j'ai l'impression Il est déjà en train de. Il y a tout un tas de choses qu'il a déjà intégrées. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser l'an prochain, c'est que l'an prochain, on sait que les équipes adverses, même en saison régulière, il y aura un game plan pour essayer de contrer ce qu'il apporte. Et ça va être hyper intéressant, je trouve, de voir quelles sont les manières dont les équipes adverses vont essayer de s'adapter ou de contrer ce que Victor fait très bien, de s'adapter à lui. Et derrière, de voir lui, sa réaction par rapport à tout ça. Je pense que ça peut aller un peu plus vite peut-être que ce que proposait Antoine. Moi, l'an prochain, je serais pas étonné quand même si San Antonio, si c'est la volonté de la franchise, était aux portes du play-in, enfin était déjà dans ce range-là. Je pense que vraiment il y a des choses. En fait, cette saison, elle était riche en enseignements pour Victor, pour les Spurs par rapport à Victor, les Spurs par rapport à leur effectif, les limites de l'effectif et le limite potentiel de leur prospect. J'aimerais bien que San Antonio bouge un peu. Bien sûr, l'idée, c'est pas d'aller gagner l'an prochain, mais je trouverais ça intéressant que, un petit peu sur ce que disait Antoine, qu'ils aillent essayer de récupérer un ou deux vétérans qui te permettent de passer un premier cap pour qu'à la fin de l'année 2, il puisse y avoir un plan précis, alors pas à court terme, on est d'accord, je pense, tous les trois là-dessus, mais un plan précis sur bah, voilà quelles vont être les étapes prochaines qui nous permettront d'être vraiment ambitieux.
Je suis
Je sais
d'accord
pas
avec
si ça
ce
répond à la
que
question
moi,
posée.
si, je pense, je
Ouais.
suis d'accord avec ce que vous avez dit, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense effectivement qu'il pouvait pas faire beaucoup mieux, même sur les à côté du terrain. Il a réussi à moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était le tourbillon médiatique et l'attention au quotidien de la part des médias. Ce qu'il avait réussi à se préserver un peu de ça lorsqu'il était en France, c'était vraiment des interviews très choisies. Et il arrivait à ne pas être complètement dans la lumière. Et ça, il a plutôt bien géré le tourbillon médiatique, et je pense que c'était une de ses plus grandes victoires, à mon avis, cette saison. Et moi, je suis curieux de le voir l'an prochain avec un temps de jeu supérieur sur l'ensemble de la saison, parce qu'on a vu aussi quand il avait grimpé, quand la limitation de temps de jeu avait sauté, même au niveau statistique, c'était encore plus impressionnant. Donc, moi, je suis évidemment très très optimiste, et je pense qu'il y aura, peu importe s'il y a play-in ou pas, mais il y aura un nombre assez significatif de victoires en plus, je pense et je l'espère. Question suivante qui nous est posée par Pauline. Une question où Pauline veut nous parler de WNBA. Ma question est la suivante. Alors, elle nous donne tout un tas de chiffres que je ne vais pas vous donner là, mais qui expliquent qu'il y a un engouement sans précédent pour la WNBA et pour ses joueuses, notamment avec l'arrivée des jeunes joueuses comme Caitlin Clark, Angel Reese et compagnie. Sa question, c'est pourquoi de telles grandes joueuses comme Candace Parker, Sue Bird, Diana Taurasi n'ont pas rallié autant le grand public, comme on peut le voir aujourd'hui avec la nouvelle génération? N'ayant pas suivi la WNBA à l'époque de leur succès, je me posais la question de l'avant Caitlin Clark. Comment les médias traitaient-ils cette ligue? Comment le grand public les percevait pour ne pas se déplacer en masse lors des matchs, alors que c'est le cas aujourd'hui avec les joueuses que j'ai nommées précédemment? Elle nous dit que selon elle, le jeu de Caitlin Clark est une réponse en soi, mais qu'il n'y a pas que ça qui justifie le tel écart entre les deux. Voilà. Alors, bah, je vais commencer du coup rapidement, mais après, on a peut-être chacun des différentes perceptions là-dessus. Mais c'est aussi, pour moi, c'est aussi bête que la médiatisation. Parce qu'à partir du moment où les matchs sont vraiment mis en avant, où il y a les joueuses qui sont mises en avant via des interviews, des documentaires et des trucs comme ça, à partir de là, ça change beaucoup de choses et ça incite aussi les gens à se déplacer à la salle. C'est-à-dire, si Caitlin Clark attire autant de monde, c'est son jeu, c'est clair, mais c'est aussi parce que tout le monde a vu ses matchs, même jusqu'en France, par des moyens qui n'existaient pas à l'époque, c'est-à-dire ne serait-ce que YouTube. À l'époque de Diana Taurasi, qui est Sue Bird, Lauren Jackson, plein d'autres, Liza Leslie, c'était des joueuses qu'on voyait vraiment sur des petits échantillons. On voyait déjà que c'était des joueuses phénoménales, mais il n'y avait pas la même médiatisation, il n'y avait pas. Même les réseaux sociaux, bêtement, c'est pas, c'est-à-dire qu'il y avait pas, on pouvait pas voir la dernière action de Diana Taurasi, le dernier double-double d'un tel, Candace Parker, qui, voilà, c'est aussi une joueuse fabuleuse, mais il n'y avait pas le vecteur pour relayer aussi facilement. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, tu mets ces joueuses-là, elles n'ont rien à envier en termes de talent de basket, à part le shoot, les shoots du parking éventuellement, mais elles n'ont rien à envier à Caitlin Clark, et ça aurait été des phénomènes de foire aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'intérêt accru des médias qu'il y a aujourd'hui, je pense. Enfin, moi, c'est mon explication.
Je suis complètement d'accord avec toi, et notamment l'accent que tu mets sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était déterminant parce qu'en fait, l'un des aspects positifs, quelque part, des réseaux sociaux, c'est que ça a permis à des gens ou des. Alors, j'aime pas trop le terme de communauté, mais je vais l'utiliser par raccourci, en fait. C'est-à-dire des ensembles de gens qui n'étaient jamais représentés dans les grands médias généraux. Parce qu'on se disait, bah non, ça intéresse personne, donc on va pas en parler parce que ça va intéresser personne. Ça leur a permis de se prendre en main eux-mêmes. De mettre eux-mêmes en avant ce qu'ils font. Je parle autant de mouvements musicaux que pour le coup de basket féminin ou de sport féminin. Et finalement, ça a rencontré un public. Et le fait que ça rencontre un public, plus de gens voient des actions de basket féminin, donc ça donne plus envie aux gens de s'y intéresser, que ça soit homme ou femme, et notamment quand même pour les. Je vais rester sur le basket féminin pour les jeunes femmes. Moi, j'ai. Voilà, ma fille qui fait du basket, qui s'est découvert une passion pour Paige Bakers à UConn, elle se regarde tous les matchs à rebours de UConn dans lesquels il y a Paige Bakers, elle suit plusieurs comptes de Paige Bakers, donc elle voit du basket féminin. Puis en voyant Paige Bakers, elle va voir Juju Watkins, elle va voir toutes les joueuses qui NCAA actuelles ou même les joueuses de WNBA actuelles, et ça n'existait pas. Avant, ça n'existait tout simplement pas parce que quand il y avait que les gros canaux, on disait bah non, ça intéresse pas, donc on va pas le montrer. Et derrière, ça peut pas intéresser les gens s'ils savent pas que ça existe, ils savent pas à quoi ça ressemble. Et je pense que vraiment, pour le coup, la médiatisation, bien entendu, mais j'ai l'impression que c'est parti de la base en fait, et que les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur. Et l'autre truc, on en a parlé à plusieurs reprises, Shai. C'est vrai que ces joueuses, moi je les trouve quand même exemplaires dans l'image qu'elles donnent d'elles-mêmes et qu'elles donnent de leur sport par leur élocution, leur degré de maturité, leur personnalité. Et ça, c'est un. Voilà, c'est, y a un petit peu tout qui s'est combiné qui fait que cette génération est peut-être la génération zéro de la grande médiatisation de la WNBA et du basket féminin. Mais par contre, effectivement, on en parlait, je sais plus, c'était cette semaine avec toi, Shai, on disait, mais allez regarder le CV de Diana Taurasi ou de Sue Bird, mais ni LeBron, ni Stephen Curry, il n'y a personne qui rivalise avec le CV de ces meufs-là, quoi. De ces femmes-là, pardon.
Ouais, mais au final, tu sais, comme tout, il y a un avant et un après. C'est à une échelle différente, mais la NBA avant Jordan, bien sûr, il y a déjà un public, il y a des gens qui suivent, donc il y a déjà des superstars, il y a déjà des mecs qui ont été glorifiés. Mais un Julius Erving, s'il était arrivé après Jordan, par exemple, il aurait eu un traitement médiatique complètement différent de celui qu'il a eu à son époque. Il y a eu un moment où les finales, elles passaient en différé. Je veux dire, pourtant, c'est une des ligues majeures des États-Unis, et même la NBA a connu des. Tu vois, il y a eu une explosion de la médiatisation. Alors oui, c'est à une échelle différente parce que la WNBA, il y avait quasiment pas de médiatisation. Et moi, je partage ce que vous avez dit, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fait, Caitlin Clark, elle a déclenché quelque chose le jour où certains médias se sont rendus compte, ah mais c'est ultra viral des actions de Caitlin Clark. Et la NBA a surfé dessus. Hein. Le concours de tir organisé entre Steph et Sabrina Ionescu, s'il n'y a pas que Caitlin Clark, c'est-à-dire qui fait ses cartons et qui devient viral, je pense qu'on n'a pas ce concours. Et l'an prochain, ils vont peut-être le réitérer avec en plus Klay Thompson et Clark, justement. Donc, il y a eu tout un truc qui est né. Après, c'est, voilà, ça rejoint ce que tu as dit, Théo, c'est le plus qui engendre le plus. Ah, en fait, ça intéresse les gens. Bon, je vais commencer à en diffuser. Ah, oui, ça marche. Ah, je continue, tu vois. Et au-delà des actions, aussi les gens, je pense, c'est comme une série en fait. La manière dont on suit le sport, c'est un peu comme on suit des séries télé. C'est que tu as besoin de t'attacher à des personnages. Et du coup, en montrant du basket féminin, en montrant des personnalités du basket féminin, il y a eu, ah bah maintenant je veux suivre Angel Reese, ah bah je veux suivre Clark, tu vois, je veux suivre un tel, je veux suivre un tel, Bakers par exemple, tu vois. Et je pense que ça va aller, bah c'est, au final c'est pareil pour la NBA, tu vois, quelque part. Donc pour la WNBA, ça ne peut que continuer dans ce sens. Je pense que ça va ouvrir beaucoup de portes et tant mieux, franchement, tant mieux.
Ouais,
Ouais,
ce qui est cool. Ce qui est cool.
si, pardon, vas-y, vas-y,
Non,
pardon.
non, juste sur le côté réseaux sociaux, juste pour préciser, c'est bien, ça permet là, avec les réseaux sociaux notamment, d'être au départ de l'aventure, en fait. C'est-à-dire que des joueuses, tu suis depuis bah, leur première saison universitaire quasiment, ou même en high school maintenant. Avant, c'était impossible. Tu voyais, encore une fois, que sur des grands canaux et américains. Tu voyais, bon, bah, Taurasi qui arrivait, elles avaient déjà 23 ans, Taurasi, Bird, Candace Parker. Là, on est au point zéro. Tu vois, ta fille, tu dis qu'elle démarre avec Paige Bueckers, ce qui est toujours pas en WNBA. Hein, et des gens qui ont commencé avec Caitlin Clark, bah, grâce aux réseaux sociaux et à YouTube et compagnie, on peut être plus impliqué, comme ce que disait Antoine, dès le début et suivre ça comme une série. Tu étais là à la saison zéro et tu vas être là jusqu'à la fin et ça permet un meilleur suivi du produit, quoi.
C'est exactement ça. Et je pense que si Caitlin Clark avait été de la même génération que Diana Taurasi ou encore plus ancien de Lisa Leslie, ça l'aurait pas empêché d'être une grande joueuse, mais jamais il y aurait eu le phénomène qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais. Et du coup, ouais, moi, c'est, parfois, c'est vrai que c'est un peu frustrant juste de, bah, quand tu vois des gens qui débarquent que par ce biais-là et qui s'intéressent pas. Ça fait pareil en NBA d'ailleurs, hein, des gens qui commencent avec un certain joueur et qui prennent pas en considération ce qui s'est passé avant. Donc, bon, ça, c'est une autre question. Mais j'aime bien quand il y a du respect sur les pionniers, les pionnières. C'était des joueuses fantastiques. Taurasi qui joue encore à 42 ans. Sue Bird, c'était une meneuse incroyable. Liza Leslie, bref. On en reparlera un de ces quatre, mais c'est voilà, c'est bien qu'il y ait ce nouveau vecteur-là avec les Clark et compagnie, mais faut pas oublier les anciens et les anciennes. Voilà. Question suivante, une question de Phil qui nous dit: j'ai deux petites questions relatives à BS qui peuvent être traitées séparément ou conjointement. D'abord, une question qui peut intéresser les plus jeunes lecteurs et lectrices en quête d'une voie professionnelle. Désolé, trop tard pour Parcoursup. Enfin, que là, ça doit être les périodes en plein bac. Là, on est d'accord.
Ouais,
Ça fait long,
grave.
ça fait longtemps pour nous, mais voilà. Quels sont vos parcours et
Longtemps, putain, 30 piges pour moi, donc ça fait
Ouais,
longtemps.
voilà. Quels sont vos parcours étudiants et professionnels qui vous ont conduit à être aujourd'hui journaliste sportif et à faire ce que vous faites? On va en savoir plus sur nous, quoi. Voilà.
Moi, j'ai su assez tôt que je voulais être journaliste sportif, je pense, et c'est pour ça que, enfin, assez tôt, je devais être au lycée. On m'avait dit, à l'époque, il n'y avait que des écoles, tu ne pouvais pas rentrer dès le lycée, et c'était très sélectif, et du coup, il n'y avait pas encore beaucoup d'écoles privées. On m'avait conseillé, bon, bah, faut faire une fac de droit parce que c'est le plus général, tu fais une fac de droit, et plus tard, tu essayes le CELSA, les machins comme ça. Évidemment, la fac de droit, moi, je suis resté 6 mois, hein. J'ai vite arrêté. J'ai vite arrêté, j'ai commencé à bosser. En bossant, j'avais quand même gardé en tête le truc de me dire que donc j'ai fait pas mal de petits boulots. Je travaille à Playmobil Fun Park, notamment pour ceux qui
C'est
connaissent
vrai.
de près.
Ah tiens.
Énorme, incroyable. J'ai des anecdotes légendaires sur.
J'imagine.
Mais vraiment,
On les garde pour la late
on
session,
ferait
tu
une leur as
émission
parlé.
spéciale,
Non,
ouais.
mais ouais, j'en ai un paquet. Bref. Donc, Playmobil Fun Park, bon, j'ai eu d'autres boulots. Hein, je travaille différents trucs, des centres d'appel, etc. Mais je voulais quand même reprendre mes études. J'avais découvert une école privée qui s'appelle l'IEJ, par laquelle je crois est aussi passé Ben, plein de journalistes en fait maintenant, parmi les jeunes qui arrivent, il y en a plein qui viennent de l'IEJ. Donc par contre, c'est une école privée, donc ça coûtait une blinde de reprendre dès la première année, mais il y avait moyen de faire une passerelle, c'était un bac plus 2, tu pouvais reprendre en troisième année. Et dans cette école, il y avait un master sport. École d'ailleurs, je passe une dédicace, c'est grâce à Babacar, donc de SoFoot notamment, ou Rempli le Frigo. Je sais que c'était lui qui était dedans. C'est un mec qui a joué avec moi à Massy au basket, et du coup, j'avais suivi ça de loin. Donc, j'ai fallu faire un bac plus 2. J'ai choisi un BTS compta-gestion. J'ai uniquement choisi compta-gestion parce que c'était dans mon ancien lycée, donc dans ma ville en fait. C'était pas tant l'idée d'aller dans mon ancien lycée, c'est juste que c'est dans ma ville et que je me suis dit, bah, entre 15 minutes à pied et 45 minutes de RER, mon choix il est vite fait, je n'ai rien à faire de la matière en question. Donc j'ai fait ce BTS compta gestion où j'allais un peu en touriste, mais j'ai réussi à avoir mon BTS compta gestion. Et à partir de là, je suis passé les concours pour entrer dans l'école de journalisme à l'IEJ. J'ai eu le concours, je suis rentré à l'IEJ. Bon, le concours, hein, c'est Attention, c'est pas un gros concours, on n'est pas sur le Salsa, je ne veux pas manquer de respect à l'UJ, mais bon, c'est une école privée, quoi. Tu payes, faut un minimum, bien sûr, mais je pense que tu rentres assez facilement. Et après, j'ai fait donc cette quatrième année sport, et c'est là où il fallait un stage de 6 mois, je crois, ou je sais plus. Ouais, je crois que c'était 6 mois, basket session,
Putain.
et voilà. Et
La
depuis,
fin
je
de
peux
la
bouger.
success story, jusque-là c'était magnifique et tout, il y avait quoi faire une mini-série sur Netflix et puis là le drame.
Et là, basket session.
Basket session. Ah, j'étais super content d'avoir mon stage à basket session, blague à part. Super content.
Le savait pas au début, mais après on était content aussi.
Et je me souviens encore du premier jour où je suis venu, et c'est toi, Théo, sur le canapé rouge qui m'a expliqué comment fonctionnait WordPress. Je m'en souviens.
Ben oui, je m'en rappelle très bien. Attention, hein, tout s'est bien passé. Hein. Il n'y a pas eu de détournement
Ah,
de lumière non plus. T'as un
ça
canapé
commençait
tout d'un.
bizarre, ça commençait bizarre avec le
Non,
canapé et tout.
non, ouais,
Non,
mais attends, non, t'inquiète. Oui, c'est vrai que si tu pourrais rajouter qu'il y avait Guillaume derrière nous, tu vois,
mais...
ça semblait de partir de plus en plus en vrille. Mais non, c'était très correct et c'était. Non,
C'est pour ça que moi
super content.
je faisais majoritairement du télétravail déjà à l'époque. Hein, les histoires de canapé et tout ça. T'es où à toi, ouais.
Alors vas-y,
Vas-y.
bah j'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis resté très longtemps à la fac pour deux raisons. La première, c'est que je savais pas ce que je voulais faire. La deuxième, c'est que j'étais sûr que je voulais pas faire mon service militaire, et ce qui existait encore à l'époque. Et que à l'époque, en fait, tant que tu avais des certificats de scolarité, tu pouvais repousser, repousser, repousser. Donc j'ai fait de l'histoire, j'ai fait des lettres modernes, j'ai fait de l'anglais. Et au moment où j'allais plus pouvoir repousser, Jacques Chirac a eu la bonne idée de supprimer le service militaire. Et c'est là que je suis rentré par le biais d'un stage. J'ai fait un stage, j'avais besoin d'un stage pour ma maîtrise de. J'étais en anglais, je crois. Oui, en anglais. Une maîtrise que j'ai jamais terminée, mais j'avais besoin d'un stage et j'ai fait un stage chez Basket News, qui était un hebdomadaire de basket, qui aujourd'hui, c'est l'ancêtre de Basket Le Mag, pour ceux qui achètent toujours de la presse. Je vous encourage d'ailleurs à continuer à acheter de la presse. Voilà, c'était un stage qui devait durer 3 mois, ça a duré 6 mois, c'est devenu un stage d'un an. Et après, je me suis dit, bah non, je veux faire ça. Donc, je me suis lancé en tant que pigiste. Pour Basket News, et puis je cherchais des piges à côté, donc j'ai fait pas mal de piges aussi dans des magazines de musique, que ce soit Vibration, une revue qui s'appelait Rap Mag aussi, un magazine que j'ai adoré qui s'appelait Tyler, qui faisait sport et culture. Voilà, jusque. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Julien de Schuytner et Guillaume Laroche, deux des quatre fondateurs de Reverse, au moment où ils lançaient le premier numéro. On s'est rencontrés, on est de la même génération, ça a vite accroché, ils m'ont proposé à moi de participer au début en tant que pigiste. Et au bout d'un moment, il y a l'un des quatre fondateurs, Julien Debove, qui ensuite est parti bosser longtemps pour la
FIFA.
FIBA, le 3-3, et maintenant qui travaille pour la FIFA, si je ne me trompe pas. Parti dans le foot. En fait, lui, il voulait quitter la société parce que c'était pas encore assez rémunérateur à l'époque. Fallait que voilà qu'il avance dans sa vie. Donc, il a laissé sa place et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé de rentrer à plein temps dans l'équipe BS Reverse. Et voilà mon parcours à moi.
The rest is history. Bah, moi, à la base, je voulais être traducteur ou prof d'anglais. Donc, j'ai été à la fac à Paris 8 pour faire une licence en. C'était quoi déjà? LLCE à l'époque
Attends, Paris
anglais.
8, c'est Saint-Denis.
C'est Saint-Denis, on dit Paris 8
Ouais.
pour faire bien, mais c'est Saint-Denis. C'est comme Paris 13, Villetaneuse, tu vois. Voilà. Mais Paris 8, Saint-Denis. Donc, j'ai fait 2 ans et après, j'avais quand même en tête peut-être l'idée de faire. Faire du journalisme si j'avais l'opportunité, il fallait avoir fait au moins 2 ans avant. Et je suis rentré à l'EFJ, du coup, où j'ai fait 2 ans, et c'était une école privée aussi. Là-bas, j'ai fait des stages, notamment sur football.fr, parce que j'étais plus spécialisé foot dans un premier temps. En parallèle, j'ai commencé à proposer mes services pour faire des comptes rendus de match, parce que j'étais déjà un peu noctambule. Par mail à Julien, j'avais proposé
Euphémisme.
ça. Euphémisme à l'époque, ouais, maintenant on vieillit. Et donc j'ai fait des petits résumés de matchs sur la nuit, des matchs NBA pour Basket Session, tout en lisant Reverse en parallèle. Ensuite, j'ai fait une deuxième école, c'était le CFPJ, donc c'était la branche professionnelle du CFJ, où j'étais en alternance pour le site football.fr et sports.fr, tout en continuant de travailler pour Basket Session à côté, mais plutôt en pige. Et puis après, bah, une fois que ça s'est terminé, si je dis pas de bêtises, bah, je suis directement parti à New York, où j'ai fait bah, une année comme correspondant là-bas. Et puis bah, depuis que je suis revenu, full time basket session reverse. Voilà. The rest is not history, mais voilà.
Non, mais
C'était
si,
plus
mais
court.
c'est. Mais c'est intéressant ces parcours parce qu'en fait, voilà, on ne devient pas journaliste sportif dans le basket pour devenir riche. Ça, faut le savoir. Hein, non, mais c'est vrai, faut le dire, c'est un truc
Ouais,
de passionné. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas une seule, il n'y a pas une voie royale en fait pour ce type de niche. En fait, à partir du moment où on est passionné, où on a envie de faire découvrir sa passion et où on a, bah, ouais, un petit peu. Alors, le terme talent est peut-être un peu surévalué, mais je vais utiliser ce terme-là, ou du moins un goût vraiment, que ce soit. Alors, pour l'écriture, c'est la presse écrite. Pour la présentation, si vous voulez faire des podcasts, bosser à la télé, etc. Voilà, je pense que si on se donne les moyens, on peut trouver son chemin.
je survalide.
On finit par un petit quiz spécial suisse, la deuxième Suisse, notre deuxième intervenant suisse de ce
Oh,
CQFR.
un quiz sur le basket suisse?
Ah non, tu vois, non mais
Ouais,
c'est
c'est
on s'était
incroyable. Je vais
déjà.
sortir Harold Mrazek, mais après, et Thabo Sefolosha, après, j'ai plus rien.
Ça peut faire, non mais ça peut faire peur, mais vous inquiétez pas, c'est assez court et assez simple. C'était pour mettre Bastian, aka Bob the Blond, dans la late session en général, en avant et nous envoyer un petit mail. À nouveau, merci pour le taf. J'essaie de me délecter de tout le contenu que vous proposez, mais vous êtes tellement des hyperactifs qu'il est possible que j'en ai raté quelques miettes. Alors d'abord, il a deux petites questions auxquelles, alors c'est pas vraiment un quiz, mais il nous demande si on sait qu'un Suisse allait probablement être drafté cette année, et si oui, qu'est-ce qu'on en sait? Alors est-ce que déjà vous savez qu'un Suisse va peut-être être drafté cette année?
Je vais rebondir. Est-ce que c'est Harold Mrazek?
Non.
Est-ce que c'est Thabo Sefolosha? Non, non. Est-ce que c'est Clint Capela? J'en avais un troisième quand même.
Non, c'est
Sinon,
pas lui,
je
c'est
savais
pas
pas.
du tout moi.
C'est pas lui, c'est Kayshawn George, 20 ans, freshman pour les Miami Hurricanes, qui a grandi à Monté en Suisse romande avant d'aller jouer 4 ans en France à Chalon. Moi, j'en ai un peu entendu parler, j'ai vu
Mais
des articles sur lui.
pardon, mais Chalon, il y a une
Ouais.
filière suisse quand même prononcée, hein, parce
Justement,
que ouais.
elle était en train de spoiler le quiz, mais
Ah,
c'est pas
putain.
grave. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur lui, parce que c'est quand même un assez gros talent, fils de Dion George, ancien joueur américain venu faire le journeyman en Suisse dans les années 2000. Bon plan si t'as pas un gros niveau, mais que tu veux mettre de côté du pèse, expression tirée des mêmes années. Il s'y est finalement établi, on peut dire qu'il a un joli retour sur investissement. Et donc, Kayshawn George est projeté entre la 20e et 30e place au premier tour. Un poste 2-3, bon shooter, bon balle en main et créateur. On te fait confiance là-dessus. Il nous dit quand même pitié, pas les Wizards en 26, pas ce bourbier, s'il vous plaît. Et donc avec ça, il nous propose un très petit quiz en cascade spécial Switzerland. Il n'est pas spécialement nationaliste, mais dans le milieu du basket, c'est pas souvent la fête en Suisse, nous précise-t-il. Donc, quels sont les autres joueurs suisses à avoir foulé un parquet NBA? Spoiler, il n'y en a pas un régiment. Donc, qu'est-ce que vous savez
Bah, j'en ai sorti deux,
Ouais, moi j'en
Sefolosha et
ai
Clint
deux,
Capela.
Sefolosha et
Ouais.
Capela.
C'est la bonne
Ok.
réponse. Thabo Sefolosha, drafté en 2006, et Clint Capela, drafté en 2014. Quel est leur autre point commun?
Ils
Bah,
sont passés par
Chalon.
Chalon.
Voilà. Ils ont tous les trois,
Respecte le
donc,
bus. Allez, allez taper dans YouTube si vous trouvez cette vidéo ou Dailymotion peut-être de l'élan Chalon qui s'appelle Respecte le bus. Une campagne dans laquelle vous pourrez voir un gros travail d'acteur de Clint Capela notamment.
Et donc, ils ont tous les trois, vu qu'on inclut Kayshawn George qui va sans doute être drafté, ils ont tous les trois joué à Chalon. C'est leur autre point commun avec la nationalité. Pour chacun, savez-vous dans quelles. Donc, pour Thabo et pour Clint, savez-vous dans quelles équipes NBA ils ont joué? Il y en a deux pour Clint Capela et il y en a quatre pour Thabo Sefolosha. Est-ce que vous savez me faire leur parcours?
Alors,
Alors.
Chicago, pour Sefolosha, Chicago, OKC,
Atlanta.
Atlanta, là où il y a eu
Atlanta,
l'incartade.
et
Ouais.
il en manque une alors.
Il en manque deux pour lui.
Il en manque deux pour lui?
Attends,
Il a été
mais
sous
c'est 5
contrat
pour
avec
ces
deux
autres
autres
équipes.
équipes?
Ah, c'est 5, pardon, j'ai dit 4, c'est 5.
Ouais. Ok.
Il a été sous contrat avec deux autres équipes avec lesquelles il a peu ou pas joué. C'est compliqué, hein. Enfin, c'est pas simple parce on se souvient que de lui à Atlanta après l'histoire avec la police à New York.
Utah?
Il y a Utah, effectivement,
Je
bien vu.
l'aurais pas trouvé.
Il m'en
Pour
manque
Capella, je
une.
les ai, c'est Houston et Atlanta, mais.
Absolument,
Ouais.
ouais.
Mais pour chez
Attends, il
Folocha,
m'en
la
manque une.
dernière.
Et la
Boston.
dernière, non, c'était Houston.
Ah,
Mais
j'aurais pas trouvé. J'aurais
pas
pas trouvé la
facile,
dernière.
hein. Non plus.
Pas facile. Et enfin, un seul joueur en NBA actuellement a joué au moins 50 matchs avec l'un et l'autre, avec Thabo Sefolosha et Clint Capela. Qui est-ce?
Attends, avec l'un et l'autre.
Donc il y a un joueur NBA qui a joué au moins 50 matchs avec l'un et l'autre. Donc c'est le joueur qui a le plus joué avec ces deux joueurs-là en NBA. Bon, c'est quelqu'un d'assez connu, on va dire, hein. Sinon, ça
Ah,
marcherait pas.
c'est. Ah non, non, pardon.
Pour Clint Capela, même qu'on avait interviewé à l'époque, je dirais même que c'était son partenaire de FIFA préféré. On fait des FIFA dans l'avion avec lui. Il a découvert avec surprise que ce joueur-là, cette superstar
Omer
NBA,
Hamzik? Ah non, James
non,
Harden.
James Harden.
Ah, oh, bien vu.
C'est bien le superstar NBA, ça t'a fait passer de Omer Hachik
Mais
à James
j'étais
Harden.
déjà. Enfin, en plus, le pire, c'est que j'étais sur Harden au début.
Ouais, c'est James Harden
Et
qui a joué au
après,
moins
c'est.
50 matchs avec Thabo Sefolosha et Clint Capela. Voilà pour ce petit quiz spécial suisse. On est ravis d'être suivis jusqu'en Suisse. Ça fait
Ouais, c'est
plaisir.
vrai.
Bob The Blond qui vient souvent sur la Late Session. Donc, n'hésitez pas à faire comme lui. Il y a des passerelles entre la Late Session, les différents podcasts et le site aussi. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. C'était la dernière question du jour, messieurs.
Eh ben, c'était top. Merci encore pour le quiz et le petit start bench cut. Là, faudra qu'on refasse.
Ouais.
Et effectivement, on a pas mal de lecteurs, même de Rivers aussi en Suisse, donc à qui on passe le bonjour au passage. On s'en est mieux sorti que je pensais. Franchement, au début, tu m'as fait un petit peu peur là sur.
Ouais, c'est ça. C'était plus un clin d'œil, effectivement. Il y avait moins de détails que sur d'autres quiz, moins de matière.
Je vous redonne l'adresse si jamais vous voulez envoyer votre question, cqfr.reverse@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui, mais demain, le Hoop Culture sera disponible, le Hoop Culture avec Théo et Pierre Armand. Demain matin, dimanche matin, c'est sur la chaîne. Et nous, on se retrouve lundi pour un CQFR, nouveau CQFR, où on sera tous les deux avec Shai. On décryptera l'actualité, sans doute les rumeurs. D'ici là, il y aura peut-être des transferts qui seront tombés, qui sait. Donc voilà, restez au rendez-vous. Pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like si vous voulez.
Vous pouvez remettre la cloche maintenant, il n'y a plus de spoiler.
On peut remettre la cloche, il n'y a plus de spoiler. Et nous, on se retrouve du coup lundi. Bonne journée, bon week-end à tous. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.